France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
C'est l'histoire d'un homme qui cherche à échapper à une malédiction. Le romancier Antoine Wauters publie Haute Folie en cette rentrée littéraire, un conte tragique et douloureux. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais les midis, vous le savez, commencent par une séquence critique. Au menu aujourd'hui du théâtre, on parle de Que sera sera, la pièce des Flamands du Tejestan, et de Faustus in Africa du Sud-Africain William Kentridge. Et ces critiques du jour, je vous les présente. Philippe Chevillier, chef du service culture des Échos.
Bonjour.
Bonjour. Victor Inizan, docteur en études théâtrales, dramaturge et critique.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Ils n'étaient pas revenus en France depuis 2022, mais ils ont mis le paquet pour leur retour. Trois spectacles. Je vous parle du collectif flamand et imprévisible Tejestan. Et ici, on s'intéresse au spectacle qu'ils donnent au Théâtre du Rond-Point à Paris. Que sera sera, c'est le titre, est une version théâtrale du livre Le cinéma selon Alfred Hitchcock, livre écrit par François Truffaut en 1966, à partir de dizaines d'heures d'entretien avec le maître du suspense. Sur scène, Bert Hellwood et Damien De Schryver s'en donnent à cœur joie dans un drôle de bric-à-brac. Ils se permettent même de faire participer le public à un quiz cinéma et de faire apparaître Jean-Luc Godard. C'est sérieusement drôle ou drôlement sérieux. Quelques mots rapides d'abord, Philippe Chevillier.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. J'étais très content de retrouver Tejestan, qu'on voit, on les voit souvent dynamiter des classiques. Là, c'est plutôt une leçon de théâtrale de cinéma qu'ils nous donnent avec Alfred Hitchcock, mais à leur manière. C'est-à-dire que Hitchcock vient dans leur monde. Ils en font un portrait assez débridé, façon puzzle, avec beaucoup d'humour, une façon assez légère, mais en même temps qui par moments ne moque pas de profondeur d'aborder le cinéaste. Donc moi, j'ai passé un très bon moment, avec toujours des côtés un peu inattendus et donc vraiment un spectacle agréable qui affiche complet, je crois, à Paris.
Victor Inizan.
Oui, je rejoins Philippe, c'est un spectacle qui est bien meilleur qu'il en a l'air, j'allais dire, et qui est, je trouve, assez passionnant, puisque par-delà son apparence assez inoffensive, je trouve au premier abord, il y a une sorte de duplicité permanente qu'ils arrivent à aménager, qui donne beaucoup à manger aux spectateurs, et pas tellement au sens littéral, parce qu'on nous gave un peu, enfin on veut nous gaver de barres chocolatées pendant le spectacle, puisque donc il y a ce fameux quiz où voilà, on peut répondre à des questions concernant Hitchcock, mais plutôt au sens intellectuel du terme. Et je trouve que c'est un spectacle qui déploie vraiment un espace de pensée pour le spectateur assez rare au théâtre.
Alors, on va écouter un extrait de Que sera sera porté sur scène par le Tejestan.
Nous avons reçu les droits de la fille de M. Truffaut. Merci beaucoup. Et voilà, tu as encore ajouté...
Non, on a ajouté aussi une interview avec Jean-Luc Godard pour changer le ton ou le philosophie.
Oui, parce que sinon c'est un peu trop léger.
Donc, tu vas jouer...
Heureusement, il y a beaucoup de photos.
Hein. Tu vas jouer Hitchcock.
Moi, je joue Hitchcock, oui. Et chaque fois quand je fais ça, voilà, tu fais, voilà.
Si je mets ces lunettes, je suis transformé en Jean-Luc. Voilà, très simple. On va commencer avec l'ouverture d'un film, La Corde, Rope.
D'accord.
Un film de 1948.
On va traduire tous les mots anglais aussi, hein.
Non.
Une improvisation, hein. Peut-être tout le reste sera aussi, on ne le sait pas encore.
Mais... C'est pas un impro.
Non, c'est pas un impro. Chaque soir, on dit la même chose.
Alors, Que sera sera par le Tejestan. Philippe Chevillier, là, on a entendu, c'est vraiment tout le jeu du Tejestan, impro, pas impro, on est en plein dedans, là.
Oui, on est en plein dedans, c'est pas tout à fait... Enfin, on comprend bien quand, par exemple, ils nous proposent des barres chocolatées en nous disant, bah, les pauvres, moi, je l'ai vu le 10, le jour du blocage. Avec le blocage, ils ont faim, ces pauvres Français. Donc, il y a de l'humour, effectivement, qui est vraiment en prise avec le public. Et puis, il y a une partie, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs au début du spectacle, qui est faussement improvisée. Il y a toujours cette écriture qui est très importante. Et c'est une écriture, là, pour le coup, très éclatée, parce qu'on a à la fois ce dialogue entre Truffaut et Hitchcock, Godard qui intervient, alors il suffit aux comédiens de mettre des lunettes pour qu'on comprenne que c'est Godard, qui apporte une espèce de ligne de fuite. Et puis c'est aussi pour dire que la nouvelle vague était vraiment derrière Hitchcock, contrairement aux critiques américains qui trouvaient ça trop populaire. Donc il y a cet aspect dialogue, il y a l'aspect jeu, c'est parce qu'il rejoue un épisode de donc la scène, je crois, du début de la corde. Il y a quelques projections qui sont d'ailleurs un peu décalées parce que finalement c'est pas le plus grand souvenir qu'on a. Le plus grand souvenir qu'on a de projection, c'est celle de l'argent de poche de Truffaut qui intervient à la fin du spectacle. Donc on est toujours un petit peu dans l'effet de surprise avec des gags évidemment pour illustrer les propos d'Hitchcock sur le suspense, la différence entre la suspense et la surprise par exemple, avec une bombe qui explose à un moment donné. Enfin, faudrait pas que j'en dise trop non plus, mais voilà. Donc c'est d'une façon puzzle d'approcher Hitchcock. On se dit à un petit moment, bon, ça reste encore une fois, ce que je disais, ça reste un peu superficiel, un peu léger, mais finalement ça rentre et on approche quand même le personnage à la façon des T.G. Stan. Ils sont toujours là.
Vous dites, Philippe, qu'en fait Hitchcock, ils font rentrer Hitchcock, voilà, dans leur scène, dans leur pièce.
Absolument.
C'est pas l'inverse.
Il y a ce côté finalement quand le théâtre qui rend hommage au cinéma, soit il se met complètement dans une sorte de conférence avec des projections, etc. Là, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment montrer que le théâtre peut parler du cinéma en restant du théâtre. Mm-hmm. Alors que le théâtre, enfin, avec ce que Hitchcock dit à un moment donné, je m'excuse parce que je suis un petit peu long.
Non, pas de souci.
Mais à un moment donné, Hitchcock justement parle du passage du muet au parlant, et il dit ce qui est terrible dans le parlant, c'est qu'on dirait du théâtre. Et en fait, donc le cinéma d'Hitchcock est anti-théâtre d'une certaine façon, donc c'est le côté complémentaire et les ponts qu'il peut y avoir, et c'est vraiment rigolo que ça soit fait par un collectif comme celui-là, qui est déjanté comme celui-là.
Victor Hénisson.
Oui, je rejoins, je suis d'accord avec ce que dit Philippe, au sens où ça pourrait presque paraître superficiel au premier abord. On connaît vraiment les T.G. Stan qui sont très drôles et qui savent justement jouer sur leur bonhomie un peu naturelle pour venir nous tromper. Et il y a ce côté, voilà, ces deux Belges, très bons acteurs, qui font Hitchcock avec un accent flamand, qui font Godard avec un accent flamand. Et on pourrait se dire qu'effectivement, au fond, c'est une soirée hommage au cinéma. Il y a un petit quiz, c'est sympa, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse dans le spectacle, c'est que derrière cet appareil dramaturgique qui a l'air assez simple, assez lisse, il y a des sortes d'accros, des étrangetés, en fait, qui se glissent. Alors, il y en a plein, j'en cite quelques-unes, mais la première, bon, c'est les fameuses récompenses là, du quiz, où en fait,
chocolat
on lance
belge,
carrément des chocolats dessus. Alors, c'est marrant, 10 minutes, mais le spectacle dure 2 heures de choix. Alors, évidemment, il ne le lance pas tout le temps, mais ça dure quand même assez longtemps. Et au bout d'un moment, on se dit, est-ce que c'est vraiment si sympathique que ça de nous donner, n'en déplaise aux Flamands, c'est des barres chocolatées industrielles, enfin voilà, des confiseries en fait, alors qu'on est en train de parler de cinéma. Enfin, il y a quelque chose, moi, qui m'a un peu rappelé la salle de cinéma contemporaine aussi, où en fait on se gave comme ça en regardant les films. De la même manière, il décide de placer le régisseur sur scène. Et on se dit, bon, bah, c'est bien, c'est peut-être c'est une manière de montrer l'horizontalité dans le travail, ou l'aspect processuel aussi. Et en même temps, ce régisseur, il lui parle tout le temps super mal. Il lui dit qu'il souffle mal, parce qu'il est, ouais, c'est un régisseur souffleur aussi. Donc quand il souffle mal, il fait mal les tops, etc., etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une sorte de sous-texte un peu permanent derrière cet appareil lisse. Et cette duplicité, je crois que c'est pas seulement quelque chose de formel. Et c'est pour ça que je crois que derrière cette apparente superficialité, il y a quelque chose. C'est que je crois que leur idée, c'est précisément d'aller présenter Hitchcock lui-même comme une figure duale, avec voilà un peu une figure en clair-obscur, ce qu'était Hitchcock lui-même. Et c'est là où je reprends un peu ce que vous disiez, Philippe, où il y a ce dialogue entre le théâtre et le cinéma. Toujours, il y a un moment du spectacle où ils reprennent cette espèce de fameuse phrase d'Hitchcock qui dit « les acteurs sont du bétail », enfin en tout cas, plus précisément, on devrait traiter les acteurs comme du bétail. Hitchcock dit aussi que dans le spectacle, il déteste les impros. T.G. Stan, c'est quoi? C'est qui? C'est des acteurs qui, bon, on sait qu'en réalité, effectivement, ils improvisent pas tant que ça, mais qui sont très forts pour donner l'impression d'improviser. Donc, on sent déjà aussi le pied de nez à reprendre justement Hitchcock et en fait à en faire une espèce de spectacle qu'a l'air à moitié improvisé. Il y a toujours cette espèce de réflexion là-dessus. Si bien que, il y a un moment dans le spectacle, je trouve que cette pancarte, elle est centrale pour vraiment bien le saisir, où il est écrit, chaque parole prononcée est suspecte. Et ça, bon, on sait que ça s'applique au film d'Hitchcock, mais je crois que ça s'applique au spectacle lui-même. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans tout ce que dit Hitchcock à chaque fois qui est potentiellement suspect, ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on doit toujours créer une vraie distance critique. Je trouve que c'est un spectacle qui est très brechtien là-dessus, une vraie distance critique de réflexion pour pas se laisser justement, pour pas devenir cette espèce de spectateur qui fait un quiz à Bombeck et qui à la fin dit que c'était sympa, parce que il y a toujours quelque chose d'un peu plus sombre dans le spectacle que je trouve intéressant.
Philippe Chevillier, vous êtes d'accord avec cette vision au second degré
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en même temps, on n'oublie pas en chemin, puisqu'il partait du livre de François Truffaut, écrit en 1960.
Qu'est-ce qu'ils en font de Truffaut d'ailleurs? Parce que là, on parle de
Truffaut. Il est. Alors le Truffaut qui se transforme en Godard, il est plus actif en Godard qu'en Truffaut d'une certaine façon, mais enfin c'est quand même lui qui est. En posant les questions qui influent quand même sur le discours. Et c'est en fait cet hommage de la nouvelle vague à Hitchcock où on voit finalement Hitchcock ravi d'une certaine façon, même si voilà, se rengorgeait un petit peu, en tout cas dans ses réponses. Et on parle aussi de technique beaucoup. On parle aussi de. Et puis, par exemple, effectivement, le fameux plan. Le fameux plan de la douche,
la psychose.
Il évoque aussi il y a un passage qui rejoint ce que disait Victor sur la vision de la femme,
oui,
et la vision de l'actrice, de l'érotisme par Hitchcock, qui est franchement prémit tout.
Mm-hmm. On peut dire ça comme ça.
Et ils mettent un panneau sur scène pour dire attention, ouais, c'est voilà.
Oui, que ce spectacle contient des passages discriminatoires.
Voilà, exactement. Ouais. Et mais bon, c'est fait avec encore une fois légèreté et humour. Et donc il passe en vue. Enfin, par exemple, la réflexion sur le suspense et la surprise, l'effet de surprise et le suspense, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ce qui est assez fascinant, c'est quand on voit un Hitchcock assez concret dans sa façon de présenter son travail et qui à un moment dit mais moi qui fuit le réalisme dans sa façon de filmer, et donc c'est là que ça nous fait aussi basculer vers quelque chose de plus fort d'une certaine façon dans la réception qu'on peut avoir d'Hitchcock. Je pense quand même à petite nuance que pour un jeune public qui connaîtrait pas Hitchcock, c'est pas sûr qu'il soit pas un peu perdu. Cela dit, il y a quelques coffrets qui peut regarder les films d'Hitchcock, il y a une soixantaine qui peut regarder. Mais c'est vrai que cette évocation, encore une fois, je trouve que c'est intéressant de voir que qui rende pas les armes, qui reste même et qui cherche pas à faire une espèce de un spectacle spectaculaire avec plein de projections dans tous les sens. On est sans arrêt un petit peu pris à contre-pied dans ce spectacle.
Mais de toute façon, on sait que Truffaut était dans une admiration totale, oui, pour Hitchcock. Le TG Stan, je ne les imagine pas du tout aller dans ce registre.
Exactement. Et d'ailleurs, ils disent que c'est pour ça qu'ils ont mis la partie Godard, précisément pour créer une sorte de dialectique l'admiration de Truffaut, quoi. Et c'est vrai que, et je voudrais vraiment revenir sur cette question de la place des femmes, parce que je crois que c'est quelque chose qui est en fait assez oblique dans le spectacle, mais je crois que c'est très symbolique de la manière dont ils abordent Hitchcock, sans admiration en fait aucune, mais vraiment avec une distance critique nécessaire. C'est que il y a des blagues sexistes dans ce spectacle, vraiment, et il y a un trigger warning, la fameuse pancarte sur les passages discriminatoires. Et ce qui est très risqué, vraiment un terrain glissant pour De Schreiffer qui interprète Hitchcock, c'est que puisqu'on ne sait jamais trop avec le TG Stan s'ils sont en train de jouer, s'ils sont en train d'incarner ou pas, c'est qu'on a un peu l'impression quand même que De Schreiffer se laisse traverser par la misogynie d'Hitchcock lui-même. C'est-à-dire que quand il y a cette pancarte là sur les passages discriminatoires, Schreiffer se lève, regarde le trigger warning et a l'air outré du trigger warning. Donc ça nous met dans un endroit un peu étrange, de la même manière que toutes ces blagues sexistes nous met dans un endroit étrange. Et c'est là où, bon, par ailleurs, le TG Stan, ça serait un autre débat, a quand même une fascination réelle pour les situations toxiques entre les metteurs en scène et les acteurs. Et dans tout le travail qu'ils ont fait sur Bergman, par exemple, c'est des choses, on sait qu'ils aiment travailler. Mais je crois que ce choix, qui nous met mal à l'aise, enfin vraiment, ça met mal à l'aise ces moments-là, a aussi le mérite de placer Hitchcock au double endroit où je crois il est réellement, bon, on pourrait en débattre, mais c'est effectivement celui du male gaze que Hitchcock a performé clairement et que Schreiffer décide de refaire sur scène, donc ça le met quand même à un endroit assez risqué, et en même temps celui qui est beaucoup plus sociologique des systèmes de domination, des films que Hitchcock a mis au jour, enfin bref, le débat qu'on pourrait avoir sur le cinéma hitchcockien. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une manière de remettre le spectateur en co-création par rapport à la figure du cinéaste. Et je voudrais aussi mettre une petite nuance pour terminer, pour qui serait peut-être pas la même que la vôtre, Philippe, mais moi je trouve que finalement, peut-être le point faible paradoxalement du spectacle, c'est ce que ça dit des films, au sens où cet agencement Godard-Hitchcock, il est un peu théorique, c'est-à-dire qu'il est bien sur le papier, mais bon, dans le fond, ça c'est pas non plus dingue. Et surtout, le vrai problème, entre guillemets, c'est qu'à l'exception de la scène, là, sur la corde, là, The Rope, qui est très bien, où ils assument de mal jouer, enfin, c'est vraiment très drôle, les contrepoints théâtraux et cinématographiques, je trouve qu'ils sont quand même plus faibles que les moments conversationnels quand ils vont faire un petit film. Moi, je trouve l'extrait de Truffaut pas extrêmement heureux à la fin. C'est pas tant une question d'équilibre, parce que c'est bien que la conversation prenne vraiment 80% du spectacle pour qu'on ait vraiment le temps, nous aussi, de réfléchir. Mais on sent que ce qui les intéresse plus, et c'est pas grave, hein, au fond, ça reste quand même un très bon spectacle, c'est vraiment la pensée critique sur la figure d'Hitchcock, du metteur en scène et de l'industrie dont il est peut-être un peu prisonnier, plus qu'au fond, la réflexion sur le cinéma en lui-même.
C'était donc Que sera sera, c'est au Théâtre du Rond-Point, il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 21 septembre, et puis du 1er au 3 octobre au Théâtre Sénar, et les 9 et 10 octobre à la Comédie de Clermont-Ferrand. Je vous disais qu'il y avait d'autres spectacles du TGSTAN en ce moment, Recommencer ce monde, les créatures fabuleuses, et puis à propos d'Élie, pour les dates de ces spectacles, je vous conseille d'aller voir sur la page des Midi de Culture.
12h-13h30, les Midi de Culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec Faustus in Africa, le spectacle qui a lancé le Festival d'automne cette année au Théâtre de la Ville à Paris. C'est une drôle d'expérience tout de même, car ce spectacle, le metteur en scène et plasticien sud-africain William Kentridge l'a créé il y a tout juste 30 ans. Il le reprend aujourd'hui sans en changer une ligne. À l'époque, il l'avait conçu en réaction aux tractations entre le régime d'apartheid et l'ANC pour assurer une transition pacifique, ce qui impliquait que les exactions commises par les autorités blanches ne seraient pas punies. Un pacte avec le diable, donc. D'où son idée d'un Faust dévorant l'Afrique. 30 ans plus tard, la mise en scène est la même. Les marionnettes de la Handspring Puppet Company aussi. Un avis rapide, Victor Inizan.
L'avantage des reprises, surtout que là, c'est vraiment 30 ans après la création, c'est que c'est toujours une bonne manière de voir si un spectacle résiste au temps ou pas. Pour moi, très clairement, la réponse est non avec ce spectacle. Pour moi, tout a vraiment pris un gros coup de vieux. Que ce soit d'un point de vue esthétique, bon, ça c'est peut-être pas encore trop grave, la scénographie, la musique, les costumes, mais surtout du point de vue dramatique. Pour moi, les codes de jeu, même si c'est une nouvelle distribution, sentent la naphtaline, quoi. Ah. Et le seul élément qui survit, et qui n'est pas des moindres, quand même, qui est vraiment central, ce sont les animations de Kentridge lui-même, qui surplombent le reste.
Au fusain, c'est ça ?
Ouais, au fusain, ouais. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire vraiment, parce que c'est un écran au-dessus des acteurs. Et vraiment, d'un point de vue dramaturgique, c'est vraiment très, très beau. Et malheureusement et heureusement, je ne sais pas, elles font un peu spectacle à elles toutes seules, quoi.
Philippe Chevillier, un petit mot.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il a résisté au temps. Je pense que c'est un très beau spectacle, alors qui est né de la rencontre d'abord d'une œuvre mythique, Les Deux Faust, on en reparlera, repris dans ce que vous avez résumé, Marie, dans un discours d'aujourd'hui assez détonnant par rapport à l'époque et même par rapport à aujourd'hui. Le tout orchestré par un grand artiste polymorphe qu'est William Kentridge. Et puis, la Handspring Puppet Company, c'est pas seulement des acteurs, c'est des acteurs manipulateurs. Et je pense que la beauté des marionnettes et leur mobilité et leur intégration dans le jeu me paraît pas dépassée. Me paraît pas non plus révolutionnaire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, résiste au temps. Donc, moi, j'ai passé un bon moment avec une réserve sur laquelle on reviendra, qui est sur l'écriture, parce que c'est toujours très compliqué d'adapter Faust, et adapter Faust en plus en le transposant, ça devient vraiment très compliqué.
On écoute un extrait de ce Faustus in Africa en anglais et dans le texte, évidemment.
To you, I owe the concept of all passion, strength, adoration, worship, dedication, love, madness, intermittence of the heart. You bag of scum! First you slide your way into the emperor's court. Not content, you now want to insert your sword into his own scabbard. This minute is your last.
Faustus in Africa de William Kentridge. Victor Inizan, grosse déception. Donc pour vous, la pièce n'a pas résisté au temps.
Non, la pièce n'a pas résisté au temps, même si c'est pas qu'elle est dépourvue d'idées. Hein. En fait, des bonnes idées.
Tout le vocabulaire
idées
de Kentridge, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Et en fait, je vais vraiment reparler un moment des animations, parce qu'il faut dire à quel point elles sont exceptionnelles. Mais sur le reste, c'est vrai que pour moi, ça me paraît soit faible sur le papier, enfin, soit faible sur le papier directement, soit une des bonnes idées mais qui fonctionne moins sur le plateau. La première peut-être parce que elle frappe et puis elle est présente pendant tout le spectacle, c'est celle d'avoir un Mephisto qui est humain, qui n'est pas marionnettique et qui est blanc pour plus être, contrairement à tous les autres personnages. Et ça, c'est une bonne idée parce qu'on se dit, c'est du théâtre de marionnettes, ça questionne la manipulation au sens propre comme au sens figuré. Le problème, et c'est pour ça que je dis, c'est typiquement la fausse bonne idée, au sens où il joue face à qui cet acteur ? Il joue face à des marionnettes qui sont très belles, hein, c'est pas le problème, mais qui sont très réduites, qui sont assez petites, qui font à peu près, je dirais, 1 mètre de haut, enfin, je pense, avec lesquelles, du coup, c'est un peu plus difficile d'opérer un dialogue. Et surtout, il joue face à des manipulateurs qui sont visibles à dessein, ce qui est pas un problème non plus, qui sont en costume d'ailleurs, mais qui sont complètement hiératiques, complètement impassibles pendant le spectacle, et qui ont l'air, alors je sais pas comment ils font, immunisés à la sueur et aux émotions, quoi. C'est-à-dire que, du coup, moi je trouve que cet acteur, il est quand même un peu en carafe, c'est pas de sa faute, mais il a quand même pas grand-chose à manger. Alors, est-ce que c'est pour ça que les codes de jeu sont si vieillots, si déclamatifs ? Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de partenaires de drame pour ce pauvre Mephisto. Et moi, là où je trouve ça vieillot, c'est que je trouve ça très, très désincarné, quoi. En termes de jeu, mais aussi en termes de costume et de lumière. Je trouve cette lumière assez fonctionnelle. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a pas beaucoup touché. Je donne quand même deux exceptions. La première sont toutes les scènes avec la hyène, qui est une sorte de démon comme ça qui habite le spectacle, qui me semble plus consistante pour deux raisons. La première, c'est que si on se dit que cet animal est plutôt un gros chat qu'une hyène, on peut accepter qu'il est à l'échelle. Et que du coup, il est dans le même régime de réalité que Mephisto, et donc quand il parle à Mephisto, ça fonctionne un peu mieux. Et aussi parce que le personnage est assez farcesque, et donc ça redonne un peu du drame. Et puis la deuxième scène, et à ce moment-là, moi je me suis dit, mais enfin, c'est la scène du duel entre Faust et l'empereur. Pourquoi cette scène elle est supérieure ? C'est parce que les corps des manipulateurs entrent enfin en jeu. Et c'est vrai que pour le reste, moi j'ai trouvé ça quand même très très lointain, encore une fois à l'exception des animations, on en parlera, qui sont magnifiques, mais sinon j'ai trouvé ça très désincarné.
Philippe Chevillier qui n'est pas d'accord.
Oui, mais alors sur le côté lointain, il y a quelque chose qu'effectivement moi qui m'a frappé, c'est on va pas critiquer le fait que ça soit dans la grande salle du théâtre de la ville, mais quand même, je pense que quand on est situé loin, les marionnettes évidemment les voient moins bien.
Ah oui, c'est un gros problème. Ouais.
En revanche, je pense moi au contraire que le fait que les manipulateurs
soient impassibles,
c'est la marionnette qui bouge et qui donne et cette sensation de mouvement. Moi, ce spectacle, je le prends justement dans son ensemble, c'est-à-dire que je pense que si on isole, alors on peut isoler effectivement tous les dessins de charbonneux de Kent Ridge pour dire qu'ils sont magnifiques, l'animation en elle-même, mais c'est vrai que moi le ressenti c'est surtout sur quand tout se mélange avec cette musique qui est aussi assez importante parce que c'est une musique un peu jazzy par moment, musique de fanfare, il y a un chant sud-africain à un moment donné qui est vraiment omniprésente, et l'ensemble fait, à mon avis, un spectacle total qui parle. Après, l'écriture, elle est intéressante, mais elle est un peu difficile, parce que le Faust, c'est deux Fausts, hein. Il y en a un qui est en 1809, l'autre en 1832, le deuxième Faust. Et dans le premier Faust, on connaît un peu l'histoire, c'est assez, le côté un peu mystique, Faust qui vend son âme et qui, contre la jeunesse, contre les plaisirs, il va tomber amoureux de Gretchen, Marguerite, et puis ça va se passer pour elle, et puis voilà. Il y a le côté, voilà. Et dans le deuxième, on a tout d'un coup quelque chose qui devient de plus débridé, parce que Faust se retrouve, à la fois chez un empereur, donc, et c'est là que ça a intéressé Kent Ridge, c'est là le nœud, parce que c'est à la fois avec Mephisto, ils vont trouver de l'argent pour l'empereur, donc c'est le pillage des richesses. Ils vont aller convoquer ensuite Hélène de Troie, qui va aller rechercher dans la Grèce antique. Ça, c'est donc un personnage qui apparaît dans la pièce, mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, se disent, mais qui est cette deuxième femme qui apparaît, une espèce de glamour, un peu une Eva Braun, un peu cinématographique, comme ça. Et puis, dans une dernière partie du Faust, l'empereur lui donne une terre à Faust, et il va faire des expérimentations de propriétaires, capitalistes, etc. Et donc là, on est encore dans l'histoire du pillage des terres, sachant qu'entre-temps, Faust, il reçoit une terre parce qu'il a aidé l'empereur à se débarrasser des rebelles. Et c'est là que dans la pièce intervient l'idée que l'empereur va faire une paix des braves, entre guillemets, pour en disant voilà, et ça ressemble effectivement après à ce qu'on peut dire de cette résilience de l'apartheid. Bon, j'espère que j'ai pas été trop confus, mais c'est pour essayer de résumer l'histoire. Et je pense que les gens qui s'en tiennent à cette écriture et à ce récit sont un petit peu perdus, ça c'est certain. C'est pour ça que moi le spectacle, je l'ai reçu vraiment comme un ensemble de. Alors effectivement, il y a des codes de jeu qui peuvent être un petit peu plus anciens. Le décor lui-même, qui est d'un grand comptoir colonial, est assez beau. Il est un peu hors du temps. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui restait d'abord sur le fond, sur le propos assez puissant et qui offrait entre les images, les marionnettes, vraiment quelque chose d'inédit qui traversait le temps.
Victor Nizan, un mot sur donc les animations.
Oui, sur les fameuses animations. Non, pour dire, c'est vrai qu'à quel point elles sont intéressantes, à la fois d'un point de vue dramatique, parce que ce sont elles qui prennent en charge les voyages incessants de Faust, donc ça c'est quand même pertinent, et surtout, la vraie chose, c'est que ces dessins au fusain, là, sont complètement aux antipodes de l'esthétique super proprette et super impersonnelle du reste. Là, ça devient surréaliste, hermétique même des fois, et c'est très bien, avec un style très sombre, très brut, très caverneux, un langage très percutant, et aussi tout un ensemble de références sociales et historiques qu'on peut pas toutes capter, et c'est très bien, sur l'imaginaire colonial, qui rentre vraiment en résonance avec l'imaginaire faustien. Et c'est pour ça, encore une fois, je dis que ça surplombe tout le reste, c'est que là, il y a quelque chose où on a accès à l'inconscient de l'artiste, beaucoup plus que ce qui nous est présenté en fait, au devant et au dessous de cet écran.
Philippe Chevillier, sur ces animations.
Tout à fait. Ça, en plus, il y a un aspect, à la fois ça plante le décor, puisque quand on est dans un palais ou quand on est dans la nature, près des chutes d'eau, on a ces dessins. Puis tout d'un coup, il y a des choses extrêmement, des choses horribles, des charniers. Ouais. Et puis il y a des choses très symboliques. Donc on est en fait des images presque subliminales.
Complètement.
Et c'est comme ça qu'en partie, moi j'ai aussi reçu le spectacle.
Ouais.
Parce que même s'il y a des choses que je ne comprends pas sur le coup, elles me sont rentrées dans la tête.
Exactement. C'est ça qui est très beau.
Et on n'a pas du tout parlé, Victor, juste, on a un petit peu de temps, mais ouais. sur l'aspect écriture, c'est-à-dire, est-ce que pour vous, même l'écriture est datée ?
Le geste est daté au sens où, mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on prend un classique de la littérature pour le changer de contexte, c'est-à-dire on le met en Afrique, et puis on s'en sert comme prétexte pour faire passer un message politique. C'est assez bon, c'est assez daté, c'est assez classique comme geste, mais c'est pas grave, c'est bien fagoté. Le problème, c'est que, ça montre que Faust est toujours actualisable, ça c'est pas très surprenant. Par contre, c'est un peu difficile, je trouve, de voir ce que ça produit sur les sujets sur lesquels on transpose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que c'était, que ça parlait de ça, que c'est bien traité, que c'est bien dénoncé, une fois qu'on a compris l'essence de la chose, je trouve pas que ça s'éclaire particulièrement à la lumière de Faust. Donc, c'est plus classique que daté.
Mmh. Voilà. Ouais. D'accord, Victor Hilsa.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a un côté quand même un peu, il faut le dire, pour le public, et qui est quand même très hermétique si on ne possède pas son Faust.
Oui. Donc, possède son Faust pour aller le voir. La recréation de Faustus in Africa de William Kentridge et la Handspring Puppet Company, c'est jusqu'au 19 septembre au Théâtre de la Ville, puis du 29 octobre au 1er novembre à la Comédie de Genève. Victor Hinizan, Philippe Chevillier, merci beaucoup d'être venu nous voir dans les Midis de Culture.